20 minutes du patron.
Moi aussi, j'ai eu quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie. Elle s'appelait
Radio Campus. The Originals.
Sur Radio Campus, y'a que des vieux avec des cheveux qui écoutent du rock. Mais nous, on passe du rap aussi.
Pour que l'image de cette musique évolue.
Bah, c'est bien, ils sont jeunes.
Ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans, je suis Erwan et je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 13h pour une nouvelle édition d'Écoute ta fac. Que vous soyez en voiture, à la maison, en train de manger ou tout autre, dans toute autre place, même dans votre salon de coiffure préféré, vous nous écoutez en FM sur le 88.3, sur orléans.radiocampus.org et en radio numérique terrestre. Aujourd'hui dans Écoute ta fac, on est le 16 octobre, mercredi 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Mais c'est également sur le campus universitaire le début des journées de la mobilité internationale. Souvenez-vous, hier, nous recevions Evan Alary. Il est chargé de projet Erasmus+, à la direction des relations internationales de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, on va recevoir dans quelques minutes une étudiante qui vient de réaliser sa mobilité à l'étranger, au Japon. Elle s'appelle Amy et elle nous partagera avec nous son expérience sur les ondes de Radio Campus Orléans. Je suis avec toi, Marion, pendant une heure. Salut.
Et oui, bonjour tout le monde.
Et on commence cette émission en musique avec The Buxton Blade et un titre Because We Smell As Well As We See. C'est sur Radio Campus dans Écoute ta fac. Restez avec nous. Because we smell as well as we see. C'est un titre de The Buxton Blade sur Radio Campus Orléans dans Écoute ta fac. Restez avec nous.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Donc aujourd'hui, nous sommes avec Amy, étudiante en Master 1 traduction anglais-japonais, qui revient tout droit du Japon. Elle y a passé un mois. Du coup, comment tu t'es réacclimatée à la France ?
Alors honnêtement, le retour a été un petit peu compliqué. Parce que là, avant de partir au Japon, on était en vraiment l'été, mais qui battait son plein. Donc on était avec des températures de 35-40 degrés. Et je reviens en France, il pleut, il fait pas beau. on va dire les températures tropicales qui sont vite parties. Donc petit problème d'acclimatation, même niveau de nourriture. Parce qu'il faut savoir que l'alimentation au Japon et en France est très différente. Donc j'ai eu un petit problème aussi alimentaire en revenant en France. Et sinon, enfin, je me suis bien acclimatée quand je suis revenue. On va dire de manière générale de reparler français. Parce que c'est vrai que je ne parlais pas du tout français là-bas ou très peu. Et puis même revoir du coup mes proches et tout ça, ça s'est fait vite et bien.
Est-ce qu'il t'arrive de changer de langue parfois ?
Ça m'arrive, même de penser dans d'autres langues.
Ah, ok. Donc...
Parce que du coup, tu maîtrises le français, le japonais, j'imagine, et également l'anglais. Il y a d'autres langues dans ton panel ?
Très lointain de l'espagnol, ouais. Mais là, je peux le lire, je ne peux pas le parler.
Aussi. Ouais. Du coup, de temps en temps, tu te surprends à penser peut-être en japonais ou encore en anglais ?
C'est ça. Et puis même des expressions, enfin des idiomes, tout ça qui viennent d'autres langues.
Et tu fais une traduction littérale qui ne veut plus rien dire, du coup, revenu en français, c'est ça ?
C'est ça, et je peux même plus sortir certains mots en français tellement j'ai l'habitude de parler dans d'autres langues.
Donc du coup, tu es parti en mobilité une année, j'imagine, ou un semestre l'année dernière ?
Une année, donc deux semestres.
Deux semestres, donc une année complète lors de ta troisième année de licence. Au Japon, c'était où exactement ?
C'était à Kobe, la ville
Le fameux bœuf de Kobe.
C'est ça.
T'as peut-être quelques anecdotes à nous raconter, justement. Qu'est-ce que c'est le bœuf de Kobe ? Tiens, on en parle. Qu'est-ce que c'est ?
Alors le bœuf de Kobe, il y a donc c'est un bœuf qui est catégorisé, ouais, en cinq niveaux, on va dire. Et le niveau 1, donc c'est le haut de gamme, quoi. C'est celui, ouais, que normalement on se paye qu'une fois dans sa vie limite.
T'as pu en manger là-bas ou pas? Ou est-ce que tu es végétarienne et du coup
Non du tout. Je suis bien viandarde.
D'accord.
J'aime bien. Non mais donc la catégorie 1 est vraiment beaucoup trop chère. Donc moi j'ai pu goûter la catégorie 5 qui est plus accessible. Qui est déjà pas mal niveau prix. On peut, je ne me rappelle plus exactement des prix, mais on peut facilement monter à plus de 50 euros le kilo, quoi. Mais ouais, la catégorie 1, ça tombe dans les centaines directement.
Ouais, c'est ça, c'est un bœuf de luxe et qui est très très gras, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et dans les règles de l'art, si je ne dis pas de bêtises, c'est un bœuf qui doit être élevé avec vue sur mer, mais attention, dans une région spécifique du Japon, donc Kobe, avec la vue sur cette mer en particulier, je crois qu'il les masse, c'est ça. Il y a des massages qui doivent être faits au bœuf pour justement attendrir sa viande. C'est vraiment tout un processus, quoi. Et apparemment, c'est pas si dingue que ça, finalement. Après, moi, je suis végétarien, donc j'en ai jamais mangé. Je n'en mangerai pas, mais des personnes dont j'en ai entendu parler, finalement, bah, c'est bon.
Disons que si elle est bien cuisinée, tu sens un peu,
ouais,
la différence,
j'imagine.
Mais il faut pas non plus abuser. Pour moi, du bœuf reste du bœuf, donc ouais, j'étais un peu déçue sur ça. Mais c'est vrai qu'ils ont tout un procédé, et en plus de ça, je crois qu'ils leur passent de la musique ou
vraiment
des choses relaxantes. Et il est très gras, oui, mais c'est très bizarre parce que c'est très, on va dire, nervuré comme gras, ouais, et viande. Donc ça crée une harmonie. Voilà, un arbre. Mais donc c'est très intéressant à regarder, et puis bah, les plats sont très beaux parce que bon, t'as des chefs cuisiniers qui te font des choses incroyables,
ouais.
Mais bon, c'est vrai que bon.
Pourquoi Kobe ? Pourquoi le Japon ?
Alors, je vais répondre d'abord par pourquoi le Japon ?
Oui, c'est plus simple, faisons,
ouais,
plus large, ouais, carrément.
Disons que, bon, déjà moi pour mon parcours, donc je suis en traduction anglais-japonais, donc partir en mobilité dans un des deux, enfin dans des pays anglophones ou le Japon semblait une évidence, voire quelque chose de nécessaire pour pouvoir augmenter mes niveaux dans ces langues. Et donc j'ai choisi le japonais parce que bon, j'étais intéressée étant plus jeune et j'avais pas trop quoi faire, j'avoue, avant d'arriver à la fac. Donc je suis partie sur le japonais. Et donc on nous a parlé de la mobilité, donc avec la DRI et tout ça. Et je me suis dit, quitte à partir, autant partir au Japon, qui est donc certes ma langue B, mais qui est la langue que je veux le plus utiliser dans mon cursus professionnel.
Est-ce que tu te destines à quoi ?
Alors, la traduction, mais ouais, plus spécialisée dans les sous-titrages. Donc, tout ce qui va être cinéma,
les animés,
voilà.
Ouais.
Évidemment. Et peut-être dériver un jour sur le sous-titrage pour les doubleurs, donc avec la synchronisation labiale, donc un peu plus compliqué que juste du sous-titrage pour la lecture.
On pourra parler peut-être tout à l'heure justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction, mais pour le moment, restons sur ta mobilité internationale, Amy, si tu veux bien. Alors, tu te destines donc à faire de la traduction. Le japonais, c'était ta langue B quand tu es arrivée au Japon. Tu maîtrisais déjà la langue japonaise. Quel était ton niveau?
Donc, je maîtrisais le japonais, mais à un certain degré. Le japonais, en termes de niveau, on le classifie donc pareil en 5 niveaux.
Ouais.
Le niveau 5 étant le plus, on va dire, faible, enfin le plus facile.
Donc, un bœuf de Kobe de mauvaise qualité.
Voilà. Et le niveau 1 qu'on considère être natif, voire même natif un peu plus, parce que, entre guillemets, c'est du vocabulaire que même les Japonais natifs n'utilisent pas.
D'accord. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment un langage très très soutenu, très très fourni, bien au-dessus du, on va dire, du japonais quotidien, ou même que nous on pourrait aussi qualifier de français quotidien. En effet, il y a plein de mots que je n'utilise pas comme anticonstitutionnellement, même si c'est un petit peu dans l'air du temps en ce moment. Mais...
C'est ça. Et donc moi, en partant, je n'avais pas officiellement ma grille de niveau. Mais par rapport à ce que je suis revenue et donc les examens que j'ai passés, parce qu'on peut passer des examens, j'en parlerai un petit peu après, je pense que j'étais N4, donc ce qui n'est pas forcément foufou en termes de quelqu'un qui finit en L2. Là, en revenant, je suis entre le N3 et le N2. Donc la différence entre N3 et N2, c'est surtout du question de politesse dans la façon de parler et la façon d'écrire.
Oui, c'est tous les codes culturels qui viennent autour de la langue en elle-même, parce que la langue et la culture ne sont pas dissociables.
C'est ça. On dit que le niveau N2, donc qui est un très bon niveau, parce qu'après, il y a juste le N1, quoi, c'est le niveau requis pour travailler en entreprise là-bas.
Ah, donc c'est un très bon niveau, finalement.
C'est ça. Moi, j'ai passé l'examen N3, parce que je ne me voyais pas passer le N2, parce qu'il demande... Enfin, il y a vraiment un... comment on dit en français ? Il y a un trou béant entre le N3 et le N2 en termes de niveau. Donc j'ai passé le N3, je l'ai eu. Et là, à la fin du peut-être à la fin de cette année ou du master, je vais passer le N2 en termes d'acquisition pour avoir ma petite certification, quoi.
Et par rapport à la langue, parce que par exemple, moi j'ai une amie qui est partie en Allemagne et elle m'a dit que l'allemand qu'on apprend en école et celui du quotidien étaient complètement différents. Et elle a dû... un peu comme réapprendre la langue. Est-ce qu'au Japon, c'est la même chose avec le japonais ?
C'est très vrai, mais ça dépend de la zone où t'es. Donc moi, je suis partie à Kobe. Donc par choix, parce qu'on fait 4 vœux quand on veut partir à l'étranger. Donc Kobe était dans mes vœux. Et à Kobe, donc, ça fait partie de la région du Kansai. Et ils ont un accent. Voilà. Donc le parler est complètement différent de l'écrit que moi j'ai appris. Et différent. À certains degrés, donc ils ont donc leur petit dialecte, etc. Donc c'est vrai que maintenant je suis revenue, j'ai entre guillemets un accent du Kansai quand je parle en japonais.
Mais c'est ça qui a de mieux. Moi j'ai fait mon Erasmus en Espagne, à Séville, et en Andalousie, il y a vraiment un accent. Pour donner une idée pour les personnes qui nous écoutent, par exemple, dans la langue espagnole, il y a beaucoup de mots qui se terminent en S. Par exemple, muchas gracias, et en Andalousie, on enlève tous les S, mucha gracias. Ou encore Madrid devient Madrid. Il y a beaucoup justement de sauts. Comment tu le quantifierais en termes de sonorité, cet accent à Kobe ?
En termes de sonorité ?
Prends un exemple de mot qui diffère entre le japonais qu'on peut apprendre, ce qu'on appellerait du coup le japonais des médias, de la même manière qu'on peut parler en anglais du BBC accent, qui est l'accent zéro entre guillemets, ce qu'on dirait accent zéro justement en France. J'imagine qu'il y a un accent un peu institutionnel pour le japonais et l'accent justement de Kobe.
C'est ça. À Tokyo, ils ont l'accent traditionnel, donc ils n'ont pas d'accent à proprement parler, on va dire.
C'est l'accent zéro, entre guillemets,
voilà.
Qui est quand même un accent en soi.
Donc on va dire en poli, je vais dire la phrase en poli, en neutre, parce que les deux, c'est pas la même, et je vais le dire en accent du Kansai.
Ouais.
Donc la phrase qui veut dire « je ne comprends pas », donc « wakarimasen », donc ça, c'est la poli,
ouais.
Donc que tout le monde utilise, même avec les dialectes et tout, on peut l'utiliser.
C'est
wakarimasen, oui.
Wakarimasen.
Quand on veut dire en neutre, on dit wakaranai.
Ah oui, c'est même pas une sonorité différente, c'est toute une construction différente comme...
C'est
comme
ça,
je ne comprends pas, je pige rien.
C'est ce qu'on appelle le desmas.
Ouais.
Et quand tu parles en poli, tu rajoutes des ou mas à la fin de chacune de tes phrases. Donc d'accord. Là, on l'enlève. Hop, ça fait le neutre ou le parler. Et donc, wakaranai, en accent du Kansai, ça devient wakaran.
Ah oui.
Ouais.
Donc j'imagine que la première fois où tu es arrivé du coup à Kobe, tu étais perdu, aussi perdu que moi à Séville.
J'étais perdu, sachant que quand on arrive au Japon, on nous attribue entre guillemets trois élèves japonais ou japonaises qui ouais. vont nous accompagner pendant toute l'année en termes
trois.
De ouais trois.
Ah ouais.
Ouais, c'est pas mal.
T'es bien entouré.
Ouais ouais grave. Et donc ces filles parlent kansai, elles sont vraiment du kansai, parce que tu peux avoir d'autres personnes, hein. Tu peux avoir des personnes qui viennent de Tokyo pour étudier dans cette université, non. Moi j'ai eu des personnes du kansai du coup. Et donc surtout sur une question dont elles m'ont demandé, bah, du coup, d'où viens-tu? Et ça pareil, il y a une façon de le dire en kansai, et j'ai pas compris, je l'ai regardé en mode, bah, désolé, je comprends pas ce que tu me dis. Bon, après on prend l'habitude, mais...
Quand tu arrivais justement là-bas, que des personnes te parlaient et que tu ne comprenais pas, quelle était la réaction en face? Est-ce qu'il y avait du jugement? Est-ce que finalement il y avait plus de l'accompagnement et de la bienveillance?
Il y a beaucoup de bienveillance, et ouais. Après il y a une petite particularité avec les Japonais, c'est qu'ils voient que tu es étranger. Donc si jamais tu as la chance qu'ils te parlent en japonais en premier, mais que tu ne comprends pas parce que peut-être le dialecte, ils vont essayer de te répéter la même chose, mais en anglais. Donc un anglais très approximatif,
oui.
Parce qu'ils ne sont pas forcément le pays le plus doué en anglais, on va dire. Mais ouais, c'est très drôle. Mais du coup, moi, je leur répondais encore en japonais, en mode, bah, non, enfin, j'ai juste pas compris à cause de ton accent. Mais redis-le-moi en neutre, et puis c'est bon, quoi.
La violence de ton accent, je le pige pas, en fait. Moi, dans un japonais correct.
Non, le plus violent, c'est quand je leur disais, non, mais je comprends pas ton anglais, s'il te plaît, repasse en japonais.
Ah,
ça, c'est un peu plus violent.
Ah oui, c'est un petit peu violent. Raconte-nous peut-être tes 48 dernières heures en France et tes 48 premières heures au Japon. Je sais que c'est justement les heures les plus décisives. En tout cas, c'est comme ça que je les ai vécues, moi, quand je suis parti en Espagne. Les 48 dernières heures en France étaient particulières, et les 48 suivantes, la première semaine même, c'était un autre monde. Et est-ce que tu as eu la même sensation du temps qui se dilate, où tu as l'impression que la première semaine durait une éternité, et puis bah, les prochains mois, les mois suivants ont passé comme ça en un éclair?
Honnêtement,
pas tout à fait.
Ouais, quand je suis partie, comment dire, bah j'étais. Enfin, j'avais une amie qui partait en même temps que moi, donc avec le même avion, etc.
Vous êtes partie à deux, ouais.
C'est ça. Et donc, sa famille qui m'a emmenée. Donc, moi, ma mère, elle m'a déposée. Elle a dit, ouais, bon, bah salut. Et puis, puis elle est partie, non, vraiment.
Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas un achievement de je suis en train de devenir adulte? Genre le jour où tu quittes chez tes parents, t'avais déjà eu l'occasion de ne pas vivre chez tes parents avant cette expérience?
Ouais, j'avais déjà mon appartement seul quand je suis arrivée à la fac. Donc, mais bon, après là, j'étais revenue pour éviter de payer un loyer pour rien et pouvoir travailler, tout, mettre de côté tout ça. Mais ouais, je me suis dit, bah, là, je vais vivre vraiment un an en autonomie à l'étranger, enfin incroyable. Et du coup, les 48 heures quand je suis arrivée là-bas?
Ouais, les 48 dernières, les 48 suivantes.
Alors, ça a été un peu un enfer parce que, bon, bah, décalage horaire oblige.
Hein,
suivant quand on arrive au Japon, on a 8 ou 7 heures de décalage avec la France.
En fonction de si c'est l'été ou l'hiver, j'imagine.
C'est ça. Ouais. Et donc, quand je suis arrivée, je crois que j'étais partie de France vers 19h ou un truc comme ça.
Ouais.
Et en gros, moi, j'arrivais là-bas et pour nous, il était 2h du mat.
Et il était quelle heure sur place?
8 ou 9 heures. Donc en gros, moi j'ai fait ma journée, je n'ai pas dormi, enfin pratiquement pas dormi dans l'avion.
Alors que c'est, ils sont tout frais pimpant.
C'est ça.
Ah la vache.
Et donc je suis arrivée, il a fallu nous dépatouiller, enfin on avait chacune deux grosses valises, la petite valise, un sac, enfin vraiment un enfer. On a dû prendre tout ça, je découvrais les transports en commun, donc à Tokyo, tout ça. Parce que bah, moi je suis très quelqu'un de campagne, donc même Paris je fais pas, donc je connaissais pas tout ce qui est transport réellement, de train, enfin métro, tout ça. Donc un enfer, c'est moi qui devais tout gérer parce que mon amie ne parle pas japonais, celle qui est venue avec moi, elle venait juste en découverte du Japon. Et ouais, non, vraiment très dur. On a enfin réussi à arriver à l'hôtel. On a pu se poser. Moi, j'étais au bout de ma vie. Le lendemain, il fallait que j'aille à la fac. Je suis arrivée en retard, mais vraiment.
Et justement, les transports en commun, ça se passe comment? C'est différent de la France? On a tous cette image justement où le Japon, c'est le futur en termes de transports en commun, où ils ne sont jamais en retard. C'est vrai?
Dans la plupart des cas, c'est vrai.
Ah.
C'est-à-dire qu'il y a très peu de retard, à part si vraiment ils ont un problème ou X raisons, mais on va dire de eux-mêmes, c'est pas ceux qui travaillent qui vont les mettre en retard, quoi.
Ouais.
Et en termes d'utilisation, je trouve qu'ils sont bien supérieurs à nous, dans le sens où, quand tu arrives au Japon, tu as des stands pour acheter une carte de transport. Donc c'est soit la Ikoka, soit la Suica, suivant la compagnie, entre guillemets. Et ça, tu vas mettre de l'argent dessus. Et tu peux payer tous les transports.
Ah.
Tous. Parce que les prix, c'est eux qui les gèrent avec leurs bornes.
Donc en gros, tu arrives, tu badges ta carte, tu entres dans la gare et tu peux prendre n'importe quel train pour n'importe quelle destination, c'est ça? Et tu rebadges à la sortie.
C'est ça. Et ça te débite, eux, par rapport à leur calcul de distance, etc.
Ouais.
Donc oui, le transport au Japon est cher, quoi qu'il arrive.
Ouais.
J'ai un comparatif. 3 mois de bus à Kobe. Donc j'ai pris un abonnement de 3 mois pour certains bus. C'était même pas tous les bus qui pouvaient m'amener à la fac.
Ouais.
Donc que 2-3 par exemple. C'était l'équivalent de 1 an de Tao ici.
Ah ouais.
Ouais.
Sachant que Tao, on le paye du coup 20 euros fois 10 si on prend à l'année. Donc c'est 200 euros.
C'est entre
200... Quand on est étudiant, moins 26 ans, hein, évidemment. Et donc pour les personnes qui ne sont pas étudiantes et qui ont plus de 26 ans, ici à Orléans, c'est, je crois que c'est 570, quelque chose comme ça. Donc là, en effet, tu avais dépensé 200 euros en 3 mois, alors que tu aurais dépensé la même somme à Orléans pour l'intégralité du réseau de transport orléanais sur une année.
Sachant qu'il n'y avait pas tous les bus en plus. Hein.
Pas tous les bus. C'est ces lignes de bus, donc techniquement je peux aller un peu plus loin ou un peu moins loin. Fin. Mais donc c'est vraiment que 3 ou 4 lignes.
Sinon tu payes des suppléments, quoi.
Bah, sinon je paye le prix normal du ticket, quoi.
Oh la vache. Ah oui, c'est un autre univers.
C'est super cher.
La vie là-bas, elle est chère en général ou c'est juste les transports?
Ça dépend sur quoi. Autant ça peut être pas cher, comme ça peut vite aller cher.
Ouais.
C'est-à-dire que tu peux avoir un très bon repas le midi pour moins de 5 euros. Donc déjà tout fait, etc. Donc ce qu'on appelle les bento.
Oui.
Mais à côté, j'ai déjà vu une pastèque qui est vraiment pas très grosse. Enfin, les petites pastèques qu'on peut acheter en commerce pour 50 euros.
Les fruits et légumes, c'est super cher.
Ouais, j'avais vu une vidéo de Louis San sur YouTube où justement il invitait des Japonais, des Japonaises en France, et il était surpris de voir une des Japonaises acheter une pomme.
Ouais.
Une seule.
Parce que là-bas, une pomme, déjà, limite, c'est 3 euros, quoi.
Ah, c'est un luxe, quoi.
Ah ouais, non, vraiment, c'est incroyable.
Par contre, nous, nos poissons, notre saumon, quand on va à la poissonnerie, ça coûte extrêmement cher. J'imagine que là-bas, c'est beaucoup plus accessible, étant donné que c'est un pays qui est entouré. C'est une île, finalement.
Oui.
C'est d'ailleurs pour ça que les fruits et légumes sont beaucoup plus chers, c'est que c'est très montagneux. Il y a très peu, justement, de plateaux destinés à l'agriculture. Donc, ils dépendent de l'import. Donc, en effet, l'import, ça coûte son prix, quoi.
C'est ça.
Pastèque carrée?
J'en ai pas vu.
T'en as pas vu? Ah, c'est
j'ai vu les fraises blanches. Mais
Des fraises blanches?
Ouais.
Ah,
je les ai pas goûtées parce qu'elles sont plus chères aussi.
70
ouais.
euros. l'unité, la barquette, vous laissez imaginer, c'est un loyer d'un mois. Mais justement, je voulais revenir sur les transports parce que, je veux dire, t'as un certain réseau de transport ultra efficace.
Ouais.
J'imagine que t'as aussi peut-être des transports la nuit.
C'est un petit peu comme nous, ouais, comme un niveau. Enfin, ça dépend. En gros, niveau des métros et des bus, c'est un peu comme nous. Donc les bus s'arrêtent assez tôt, donc genre 23h, un truc comme ça dépend des villes, mais généralement 23h. Et le métro jusqu'à minuit et demi, quoi, pour que les dernières personnes puissent rentrer du travail ou de leur repas d'après travail.
Finalement, quand tu fais le rapport qualité-prix, tu préfères quel réseau de transport, le français ou le japonais?
Oh, le japonais.
Ah ouais, quand même.
C'est tellement... Mais... plus propre, plus efficace, parce qu'on sait qu'ils vont pas être en retard ou que c'est très rare et ils en ont très souvent.
En vrai, je tiens à dire, la SNCF, ils ont quand même mauvaise presse, mais ils le méritent pas, parce que moi, très souvent, je prends le train et en ce moment, j'ai aucun problème. Et généralement, quand il y a des couilles sur la ligne, très rapidement, ils mettent une solution de repli en place assez efficacement. Donc en vrai, la SNCF, on les fustige énormément, mais c'est important de dire qu'ils font quand même un travail qui est quand même assez impressionnant. En plus, c'est un service public. Au Japon, c'est du service public, le transport, ou c'est privé?
Il me semble qu'il y a du public, mais c'est principalement privé.
Ouais, c'est principalement du privé, d'où justement le fait que tu as un abonnement sur une ligne et dès que tu dois prendre un autre transport, c'est autre chose, quoi.
C'est ça.
Des anecdotes à nous raconter?
Pour les transports?
Ouais, pour enfin transport ou d'autres sujets de manière générale sur ton voyage au Japon, quelques anecdotes.
J'ai par exemple un de mes professeurs qui fait du breakdance.
Donc, ok.
Vraiment à des moments...
De japonais, professeur de japonais là-bas au Japon.
Un japonais, ouais. Professeur de japonais, enfin pour nous, notre cursus, donc qui est dans le petit club de breakdance de la fac, qui danse à toute occasion, qui venait à nos soirées. C'était incroyable. Moi, il buvait pas, on dirait un peu comme un chaperon, mais vraiment comme un ami quand il était en dehors des cours. Incroyable ce monsieur. C'était toujours très drôle d'être avec lui, un humour décalé. Vraiment, tu le vois, tu te dis pas, il est japonais. Pourtant, bon, bah, il a tout du japonais, mais il est tellement extraverti, etc., qu'il sort des codes du japonais lambda. Mais vraiment, il est incroyable. Il a dansé avec nous, mais vraiment comme on danserait en Europe pendant les soirées, alors que c'est un professeur.
Donc il y a vraiment une proximité avec les étudiants. Pour lui, en tout cas, tu m'as dit que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais ça t'avait surpris, quoi.
Ouais, bah ça nous a tous surpris, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais. J'ai énormément de photos de lui qui fait l'imbécile pendant nos petites sorties, parce que la fac organise des petites sorties pour qu'on puisse voir quand même du patrimoine. Donc c'est à raison de 2 à 3 sorties par semestre, ce qui est quand même très 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 bien. Et ça m'avait toujours étonné.
Pour les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent et qui auraient peur justement de se lancer dans l'aventure et notamment peut-être peur de la charge administrative, est-ce que toi, par exemple, tu te souviens encore, parce que moi c'est absolument pas mon cas, est-ce que tu te souviens encore de toutes les démarches administratives que tu as dû faire en amont pour préparer le voyage? Est-ce que finalement c'était une si grosse montagne à gravir?
Alors.
Alors.
Disons que sur le moment ça a été mon petit trauma parce que c'était vraiment très long à faire. Ouais. Je me rappelle que j'ai un dossier de 40 pages. Voilà, donc j'ai pas envie de faire peur aux élèves, ça va très vite, hein. Si vous vous y prenez surtout, en temps et en heure, ça va très vite.
Surtout que là, on est dans le cadre d'une mobilité hors Europe. Dans le cadre d'Erasmus, c'est beaucoup plus simple, quoi.
C'est ça, et parce que le Japon est quand même très précis sur certains trucs, surtout sur la santé. Donc ouais. On a une fiche médicale à remplir, dont dans la fiche médicale, on a une écho, enfin, on doit faire une radio des poumons.
Ouais.
Pour être sûr que tout ira bien, qu'on n'aura pas de problème là-bas, vraiment... Ils nous suivent de A à Z, même avant qu'on parte. Donc, Mais oui, donc, enfin, ça peut être long un peu à faire, le dossier. Mais en soi, après ça, bah, c'est que du bonheur, quoi.
C'est que du bonheur.
Ouais.
Radio Campus Orléans fête aujourd'hui, en fait. Enfin, c'est quasiment aujourd'hui, quasiment à quelques jours près. C'est cette semaine, on fête nos 30 ans. Où est-ce que tu t'imagines dans 30 ans?
Oula, 30 ans. Toujours en train de travailler, je suppose.
Ouais.
J'aimerais bien, en vrai, dans 30 ans, être doubleuse, pourquoi pas, au Japon.
Au Japon, ouais, tu te revois rapidement retourner au Japon.
Quand même assez rapidement, ou en tout cas de manière assez régulière.
Ouais.
Peut-être pas y vivre de manière permanente parce que les conditions de travail peuvent être vite extrêmes là-bas.
Mmh.
Surtout au niveau des horaires et tout ça. Nous, en France, on est un petit peu plus à la cool. On aime bien la phrase « l'heure, c'est l'heure
». Ouais.
Là-bas, ils la connaissent pas trop, honnêtement.
C'est-à-dire
qu'ils font vite beaucoup d'heures sup, forcément payées, même en dehors du boulot, ils font du boulot.
C'est souhaitable, ça, comme modèle?
Souhaitable ouais. Non.
Ouais.
C'est pour ça que je préfère quand même travailler en France, mais aller régulièrement au Japon, pourquoi pas, du coup, avoir des expériences professionnelles là-bas. Ouais. En tant que traductrice, ça serait quand même un plus.
Topissime. Et bien écoute, merci beaucoup Amy. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier conseil, un dernier mot que tu aimerais donner aux étudiants et étudiantes qui hésitent encore et qui sont sur le point peut-être de passer à l'acte et de venir sur les journées de la mobilité internationale pour prendre de l'information et peut-être partir en mobilité internationale en Europe ou hors Europe? C'est sur la place du Forum pendant toute la journée d'aujourd'hui sur le campus de la Source.
Ce que je dirais, c'est si vous hésitez à partir, honnêtement, même si c'est parce que vous êtes loin de votre famille pendant un an ou autre, je sais que c'est dur. Ça peut être dur, vous aurez un petit coup de mou.
Ouais.
Mais allez-y à fond. Parce que c'est une chance incroyable que vous avez dans la vie. Vous ne serez jamais autant accompagné qu'à ce moment-là. Donc, vous ne serez jamais perdu, vous ne serez jamais seul là-bas. Donc vraiment, foncez.
Et ben voilà, tout est dit, c'est merveilleux. Ben merci beaucoup Amy. Je le rappelle, tu es étudiante à l'Université d'Orléans en Master 2 de traduction anglais-japonais, c'est bien ça?
Ben ça.
Master 1, j'ai dit quoi?
2.
Ah zut, Master, bah, c'est pour l'année prochaine. Ouais. Enfin, tu l'auras le Master 2, sans aucun souci. Bah, merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous. Tu vois, il est déjà 12h30, c'est ce qu'on disait, ça passe très très vite quand on parle. Et oui, non mais c'est très bien. Merci à toi Marion de m'avoir accompagné du coup sur cette rencontre. Restez avec nous sur Radio Campus Orléans. On continue avec un titre de UTO. Souvenez-vous, UTO, comme vous voulez. On les a reçus sur notre plateau au Pop-Up. Ils étaient programmés au festival au Pop-Up. C'était en septembre dernier d'ailleurs. Toutes les rencontres sont à réécouter sur notre site internet orléans.radiocampus.org. UTO Napkin, remixé par Coco M également. Elle a été sur le festival au Pop-Up, c'était il y a 2 ans. C'est dans Écoute ta fac sur Radio Campus. Restez avec nous. En deuxième partie, il se peut que je vous rediffuse le traditionnel épisode d'Entrecrochet, la série de podcasts que j'ai réalisé quand j'ai effectué justement ma mobilité internationale à Séville en Espagne. Restez avec nous.
Everything changed.
Nap King de Uto, artiste qui a été programmé sur Opopop, c'était en septembre dernier, remixé par Coco M elle-même. Programmé sur Opopop, c'était il y a 2 éditions de cela sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours dans Écoute ta fac, on est ensemble jusqu'à 13h. Qui dit mobilité internationale dit rediffusion comme chaque année d'un épisode de Entre Crochets. C'est le podcast que j'ai réalisé en 4 épisodes. Je vais finir ma phrase, dis donc. Je vais y arriver. Série de podcasts, balado, c'est comme vous voulez, pour nos amis québécois, que j'ai réalisé justement autour de ma mobilité. C'était en Espagne, c'était il y a quelques temps.
Oui, et du coup, est-ce que tu as rencontré quelques difficultés en Espagne? Est la plus grosse, en tout cas?
Quelle est la plus grosse difficulté? En vrai, je pense que la plus grosse difficulté, c'était quand même le logement. Parce que même si on était accompagné par l'université et que en LLSA, parce que du coup j'étais étudiant en LEA, et là on est du coup à l'été 2019, donc je faisais mon Erasmus de septembre 2019 à mars 2020 du coup, bien évidemment, pour des raisons qu'on connaît bien maintenant. La plus grosse difficulté, je pense que ça a été vraiment le logement, vu que malgré l'accompagnement et justement le classeur du bureau des relations internationales qui mettait à disposition des adresses, finalement le logement que j'ai occupé, c'était pas forcément le meilleur, il était pas hors d'eau, hors vent, c'était un truc assez particulier. Et vraiment, je pense que le plus gros point noir, c'était d'avoir eu vraiment assez froid l'hiver et puis commencer à vivre seul, parce qu'à ce moment-là j'ai 19 ans, commencer à vivre seul quasiment du jour au lendemain, faut apprendre à s'occuper de soi et des fois c'est pas toujours évident. Et puis apprendre à se nourrir par soi-même, on se rend vite compte que c'est un impact sur la santé, que quand on se nourrit mal, on fait vite... On va très vite pas bien du tout. Voilà. Du coup, je vous propose d'écouter le 3e épisode du coup d'Entre Crochets. C'est vraiment un de mes épisodes préférés avec le 4e, puisqu'on est en plein justement dans mon Erasmus. Les 2 premiers, c'est un petit peu la préparation, c'est un petit peu les meilleurs conseils. Et vous avez l'habitude de les écouter pour les auditeurs et auditrices les plus fidèles au poste. Donc, je vous propose d'écouter le 3e et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série de 4 épisodes sur orleans.radiocampus.org pour la version radiophonique. Et également sur mon site internet, c'est ncency-production.fr. Pour la version, on va dire, libre de droit, avec des musiques libres de droit, vu que pour la diffusion web, en fait, il faut du libre de droit. Entre Crochets, épisode 3. Say something, I'm giving up on you. You're recording on?
Erwan! Oh, I love it. Wow, it's super cool.
Are you okay?
No.
No.
In which language?
In English?
I say it in English.
Allez, I say it in German.
Contin pak, panjohu?
I get. No, I can't.
You are recording?
Yeah, I am.
Oh no, then the whole France will know the Polish girl that is alcoholic. Yeah, actually, that's true, but I don't want to say that as well.
This is a ASMR video.
Okay, should I start?
Hola, soy José Miguel.
My name is Cristina, I'm 20.
Soy de Mérida, Extremadura, España.
I'm from Huelva, Spain.
Y yo, mi personalidad, soy una persona tímida. Me gusta el fútbol, soy del Real Madrid.
So, I don't know, I'm feeling so nervous right now.
Je m'appelle Gabriela, j'ai 20 ans. Je suis de la Guinée équatoriale, mais j'habite à Madrid avec ma mère et ma famille.
I don't know, I can say that I'm Olivia and I'm from a small city in Poland called Toruń.
J'aime écouter de la musique et sortir avec mes amis et sortir la fête.
Książ brzmi w Ptinie, w Szczebrzeszynie.
No, ce qui m'a fait.
Okay, so my name is Diana, or Diana. I am from Mexico. I'm the oldest in the house, so I'm the grandma basically.
Bonjour, je m'appelle Viviana, je suis de Munich, d'Allemagne, et en ce moment je suis à Séville pour étudier. Den ganzen Tag einfach das Wetter schön ist und die Leute alle sehr offen sind. And in my future I want to work with animals and protect the nature, because I love animals.
Well, I like reading, watching series, everyone can confirm that. I watch Netflix all the time. I also love Disney, I'm the Disney girl in the house.
Aussi, j'aime écouter le rap français. Niska, c'est mon artiste préféré.
Oh, I also love Harry Potter and I have a Harry Potter music box.
Radio Campus Orléans présente Entre Crochets, épisode 3. Note numéro 1. Les Espagnols n'utilisent pratiquement que WhatsApp pour communiquer.
Próxima estación, Pablo de Olavide. Fin de tramo 1.
16 septembre. Il est temps de retourner en cours après plusieurs mois de vacances.
Me tenéis que preguntar a vuestra universidad si los cambios que vais a hacer en las asignaturas de ese contrato de estudio os lo aprueban.
De diccionario en varios idiomas, tanto de español como inglés, italiano, alemán, etc. Estas, aquellos.
Al lado de la P. Ok, a la 10.
Bienvenue à la UPO, l'université Pablo de Olavide. Une université plutôt récente comparée à l'université de Séville, qu'on appelle aussi la US, vu qu'elle a été fondée en 1997. L'emploi du temps par rapport à la France est très allégé. Sur un semestre, je n'ai que 15 heures de cours par semaine, et au début c'était encore moins vu que certains cours n'avaient pas encore de professeur attitré. On se rend aussi compte que parfois les cours ne sont pas adaptés, trop compliqués ou alors certains d'entre eux se chevauchent, il faut donc les changer direction le bureau des relations internationales. Une fois que tous les changements sont faits, on fait signer le contrat pédagogique final et on pense aussi à faire remplir et signer le certificat d'arrivée. Tous ces documents sont indispensables pour avoir les bourses. Pour les séjours de plus de 3 mois, il faut aussi penser à s'inscrire sur le registre des Français établis à l'étranger. Le formulaire est 100% en ligne et il est accessible sur service-public.fr. L'Erasmus peut enfin commencer. Note numéro 2. Il est vite fait d'arriver de se retrouver par erreur dans un restaurant gastronomique.
I went on my lessons several years ago. It changes things.
Une fois qu'on est installé dans son nouveau chez-soi, on peut commencer à rencontrer de nouvelles personnes. L'ESN, Erasmus Student Network, est une des assos étudiantes les plus connues dans ce qui concerne d'aider les étudiants étrangers à s'intégrer et à se sociabiliser lors de leur mobilité Erasmus. Il suffit d'adhérer à l'association et on peut participer à tous leurs événements. Tout au long du mois de septembre, l'ESN a organisé divers événements pour accueillir les nouveaux étudiants. Le Welcome Month s'est terminé par un séjour à la plage de 3 jours à Conil de la Frontera. En bungalow, avec piscine, l'eau était quand même un petit peu froide. Et en plus d'organiser des sorties à la plage, l'ESN propose des soirées en boîte de nuit, des visites de villes espagnoles ou encore des actions éducatives. Note numéro 3. Le paiement par carte bancaire n'est pas aussi répandu qu'en France, mieux vaut toujours avoir du liquide sur soi. Avec l'ESN, on a aussi eu le droit à une visite historique de la ville. Et au cœur d'un bâtiment de l'université de Séville datant du XVIIIe siècle et qui était à l'origine une fabrique de tabac, on a eu le droit à quelques notes de « L'amour est un oiseau rebelle » de Carmen, ce célèbre opéra composé par Georges Bizet. Et justement, les étudiants de première année de cette université ont une tradition bien à eux. La veille de leur rentrée, qui se fait 2 semaines après celle de la UPO, ils se réunissent dans les bars de la ville pour une dernière nuit alcoolisée avant la reprise des cours. Du moins jusqu'à ce que la police arrive. Note numéro 4. Quand il pleut, ce n'est pas de la pisse de chat. Octobre.
International Festival.
Oh yeah, in...
near Plaza de España.
What is it about?
Eh?
What is it about?
They sell food for many countries. Asian, United States.
Like
so
you love to eat.
Yeah, really, love it. El, okay, like me gusta hacer.
Pues yo lo veo, eh.
El jueves maletas.
Sí.
Novembre.
En gros, je pense que c'est des figures à réussir à la suite pour gagner un truc. Vous laissez le même move depuis tout à l'heure.
Voilà, je suis en compagnie, en bonne compagnie de Rema. Comment vas-tu ?
Ouais, je vais bien, pas mal.
Alors aujourd'hui, on est sur un lieu qui s'appelle Plaza de España. Et ce lieu, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est ton endroit préféré de la ville.
Ouais, c'est vrai. Parce que même si je l'ai visité plusieurs fois dans ma vie, et quand j'y arrive, je reste toujours bouche bée. C'est dommage les mauvais temps d'aujourd'hui, mais quand il fait beau, c'est magnifique. Les vues, le ciel, je peux te dire qu'elle a été construite entre 1914 et 1929. Et, le but de la construire, c'était pour l'exposition ibéro-américaine. Et aussi, il y a dans les banques, chaque banque a les noms d'une province. Donc, il y a toutes les provinces d'Espagne. Je ne sais pas si tu t'as remarqué.
Ah, les banques.
Oui, les banques.
Les
banques. Bon.
Bon.
OK. On prononce pas la. OK. Le bon.
L'année dernière, tu étais à Orléans.
À Orléans.
Donc tu as fait ton année d'Erasmus l'année dernière.
Ouais.
Pourquoi tu avais décidé de faire un Erasmus et pourquoi avoir choisi Orléans ?
Parce qu'en Espagne, j'ai fait traduction et interprétation. Et c'est l'équivalent en France de langue étrangère appliquée. Et à Orléans, parce que j'aime trop Paris et je ne voulais pas partir en Erasmus à Paris parce que c'est trop grand. Voilà, et aussi trop cher. Orléans, c'est trop joli. Ça, je ne sais pas comment on dit en français. Tiene su encanto.
C'est très charmant.
Ouais, c'est très charmant. Et la cathédrale d'Orléans, c'est magnifique. Aussi les bords de la Loire. Mais c'est vrai que comme Séville est une ville plus grande, il y a plus de monuments.
Et surtout beaucoup de musiciens de rue. Mais pourquoi y en a-t-il autant ?
Il y a partout, surtout par les centres-villes, des musiciens. Voilà, ils jouent des instruments pour les gens. La plupart des gens ont besoin d'argent, donc c'est pour ça. Mais il y a d'autres gens qui les font justement pour plaisir. Voilà. C'est parce qu'ils ont envie de partager sa passion.
Séquence 3, plan 22, tomamos. Acción.
Próxima parada. Next stop. Aeropuerto de Sevilla.
On est fin novembre et je rentre à Orléans pour les 25 ans de Radio Campus Orléans. Et dans mon avion, j'ai commencé à discuter avec mon voisin de siège, Denis, qui vient de Roumanie. On a parlé pendant tout le trajet et il m'a ensuite déposé en voiture jusqu'à la gare. Merci.
When you come to Romania, try to find Transylvania and Neamț Denis. I'll be there.
De 20h30 à 3h, Radio Campus fête ses 25 ans à l'Astrolabe. Avec tout d'abord la radio du Turfu. Puis à 22h et jusqu'à 3h, c'est la Lola Jelos Passoastre et Mechanical.
C'était inoubliable. Les fêtes de fin d'année approchent et les examens aussi. Après être retourné en Espagne pour les passer, je reprends l'avion pour la dernière fois de 2019, direction la Bretagne en famille pour Noël. C'était Entre Crochets, un podcast réalisé par Aaron Cochery avec le soutien de Radio Campus Orléans. Retrouvez plus d'infos sur www.orléans.radiocampus.org. Merci à Cristina, Diana, Gabriela, José Miguel, Olivia et Viviana, mes colocataires, d'avoir participé à cet épisode ainsi qu'à Rema. Et merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette série tout autour de vous si elle vous plaît. Et rendez-vous au prochain épisode. Et voilà, c'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans entre crochets. Maintenant que la série a été réalisée, c'était lors de ma mobilité Erasmus. C'était en 2019-2020. Ça s'arrêtait avec le Covid en mars 2020. Donc je vous laisse imaginer le second semestre à quoi il a pu ressembler. Mais vous pouvez en avoir un petit aperçu dans l'épisode 4 d'Entre Crochets. Ça sera à écouter sur notre site internet orléans.radiocampus.org et également sur ma plateforme, mon site internet cnc-production.fr. Je vous mets tous les liens bien évidemment sur notre site dans l'article dédié. du replay d'Écoute ta fac de cette semaine. Bien évidemment, c'était les 25 ans de Radio Campus, mais en ce moment, on est en plein dans les 30 ans de votre station préférée. Retrouvez l'intégralité du programme. C'est sur Orléans pour radiocampus.org. On se donne rendez-vous demain, jeudi 17 octobre, à partir de 20h30 au Bouillon pour une soirée électro, un before électro jusqu'à 23h30. Klaus, Intida, YN1998 seront à retrouver. L'entrée, elle est gratuite. Réservation sur lebouillon.fr pour être sûr d'avoir une place pour venir. Évidemment, une buvette sur place. Cette semaine, la grille d'antenne spéciale 30 ans continue ainsi que la semaine prochaine. Et on continue là dans quelques instants, dans quelques secondes à 13h avec un RCO Radio Campus Orléans Random Archive des émissions à réécouter. C'est sur le 88.3 FM. Belle journée à vous. Merci de nous avoir écoutés dans Écoute ta fac. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Prenez soin de vous. Il est 13h.